Hello tout le monde, vous êtes sur Canal B 94 FM et vous écoutez l'émission musique.fm, de la musique, des jeux vidéo et de la musique de jeux vidéo. Je suis avec Alexis comme à chaque fois. Salut Alexis.
Salut Benjamin.
Alors on vous accueille aujourd'hui pour une émission encore un petit peu spéciale parce qu'on s'est fixé un thème aujourd'hui, c'est le thème bourrin. On n'a pas choisi de titre. T'as un titre précis pour l'émission ou on reste sur bourrin?
On peut faire un peu plus ringard, genre musique qui déménage quoi.
Avec des morceaux qui balancent aujourd'hui. Et là on est en train de s'écouter. Alors comment commencer une émission spéciale bourrin? On est avec la BO du jeu Carmageddon 2, sorti sur PC en 98. Donc le morceau il vient du groupe Sentience. Le morceau s'appelle Finer Scale. Et donc Carmageddon, pour vous présenter un petit peu le jeu, c'était un jeu de course dans lequel tu peux écraser des gens. Enfin, t'es même fortement encouragé à écraser des gens parce que ça te fait des points, tu gagnes du temps. Et donc les circuits, c'était dans des maps assez ouvertes, souvent urbaines, des villes. Et donc t'es pas obligé vraiment de suivre le tracé du circuit, mais tu peux très bien te balader et défoncer tous les piétons parce que t'avais trois façons de gagner les courses. Soit tu pouvais faire la course normalement et finir le tracé, la course en premier. Soit tu pouvais tuer tous les piétons présents ou alors détruire les voitures de tous tes adversaires. Et donc tu pouvais ramasser des bonus comme une sorte de Mario Kart Dark. Et donc ce jeu, voilà, pour en parler vite fait, toi tu y avais joué un petit peu?
Ouais, moi j'avais joué au 1 et au 2 back in the days. Oui. Et ouais, alors je crois que je suis pas sûr d'avoir déjà fini une course. Moi je pense que. Ouais. Après, je crois qu'il y avait un côté cool d'exploration, mais en voiture qui était assez marrant. Enfin, genre, on était que en voiture, il n'y avait pas de phase où on était piétons nous-mêmes. Et donc je me rappelle qu'il y avait des. C'était peut-être dans le 2. On pouvait même monter dans des immeubles en caisse,
sur des toits
d'immeubles, prendre des tremplins. Il y avait un peu une exploration assez fun en fait, juste en étant en voiture tout le temps quoi, c'était assez drôle.
Ouais, c'est ça, et puis le fait que ce soit ouvert comme ça, ça rajoutait un peu du mystère à ce jeu. Moi je comprenais pas tout ce qui se passait.
Oui, enfin, en c'était... fait c'est ça. C'est si tu pouvais clairement faire n'importe quoi dans ce jeu. Et alors je sais pas si c'était le cas dans le 1 aussi. Dans le 2, tu pouvais personnaliser tes véhicules, mais je sais plus dans le 1.
Ouais. Tu pouvais changer de véhicule, tu pouvais changer de personnage aussi, parce que chaque véhicule était attribué à un personnage. Et du coup, ça m'amène à parler un petit peu de ce jeu, qui était une adaptation libre du film Death Race 2000.
Ah ouais, d'accord, je savais pas.
C'est une comédie noire dans un univers dystopique qui est sortie en 1975, et donc qui se passe en l'an 2000. C'était le futur. Et donc ça reprend ce concept de course super violente dans lequel les participants écrasaient des piétons.
C'était avec Stallone, non ?
C'était avec Stallone, exactement, et David Carradine.
Et David Carradine.
David Carradine qui était avec une combinaison BDSM, c'était vraiment très...
Et c'était Corman, non, qui avait réalisé le...
Ah,
Roger
ouais,
Corman.
C'était peut-être produit par Corman.
Ouais, produit sûr, ouais. Je pense, et peut-être réalisé.
Enfin, ah oui, je sais plus si c'est lui qui a réalisé. En tout cas, ouais. Et du coup, oui, chaque participant avait une vraie identité avec son background, avec le design des voitures, avec des pics, des armes dessus. Et chacun avait un petit peu sa DA. Et il y en a une, notamment, c'était vraiment un film de sale gosse, qui avait... pour DA, on va dire l'Allemagne des années 40, avec une jolie croix sur son casque. Mmh. C'était de très bon goût. Et ça faisait beaucoup penser à une version gore du dessin animé Les Fous du Volant, avec Satanas et Diabolé.
On remonte à ça, c'est vrai.
Et c'était un dessin animé dans les années 60 qui était vraiment très cool.
Bien sûr.
Et donc, voilà, si vous voulez voir Stallone très jeune ou David Carradine, ce film est vraiment cool. Vraiment un ovni, quoi. Et donc, la BO de Carmageddon 2 a été composée par des vrais groupes. Dans le premier, il y avait des morceaux de Fear Factory et de Iron Maiden.
Ah ouais, on se souvient pas.
Et, et dans le deuxième, donc, il y avait entre autres ce groupe Sentience, qui est un peu un groupe anglais électro breakbeat avec des guitares saturées.
Ouais.
Ça fait très Prodigy, période Fat of the Land. C'était
bien sûr.
En 98, c'était tout ce qu'on voulait dans un jeu de bagnole bourrin, quoi.
Exactement, tout à fait.
Et donc voilà, on vous a présenté un petit peu le concept de cette émission. Et si ça te va, on peut passer au premier mix.
Eh bien, allons-y, Benjamin, avec plaisir.
Je vous balance des morceaux. êtes sur Canal B 94 FM et vous écoutez l'émission musique.fm qui vous passe plein de sons de jeux vidéo. Alors on a eu un morceau assez vénère là pour terminer ce petit mix que je vous ai concocté. C'était Fading Day composé par Jack Azid, tiré de la BO du jeu. Alors attention, Beatmania 2DX 18 Resort Anthem. Sorti sur arcade en 2010, j'ai vu que alors Beatmania, il y a tellement de jeux qui sont sortis. Ouais. Donc ça, c'est la série Beatmania 2DX. Rien que cette série qui est une sous-série de Beatmania, il y en a déjà 33.
Oh la vache.
Ouais. Donc là, c'est le 18. Et donc Beatmania, c'est des jeux très populaires en arcade, surtout au Japon. Des jeux rythmiques dans lesquels tu incarnes un DJ. Donc tu as des platines en face de toi, à la place du tapis de danse habituel qu'on pourrait avoir dans ce genre de jeu. Et c'est bon, bah voilà, c'est le genre de vidéo qu'on voit sur YouTube avec des gens qui font des trucs inhumains parce que ça demande des réflexes de fou. Et ce morceau, bah, je le trouve tellement cool, je le mets souvent en fin de set quand j'ai fait quelques petits DJ sets dans ma vie. Et ça, voilà, ça conclut bien l'affaire. Donc je vais vous parler également des autres morceaux que j'ai passés. En premier, on a eu Concept of Love composé par Hideki Nakanuma. Tiré du jeu Jet Set Radio Future sorti sur Xbox en 2002. Donc c'est la suite de Jet Set Radio qui était sorti sur Dreamcast quelques années plus tôt et qui avait vraiment matrixé tout le monde, notamment pour l'aspect visuel cel shading qui était magnifique. Et ça, bah ouais, les Jet Set Radio, c'était les jeux cool par excellence. Parce qu'on fait du roller, on fait des graffitis, on doit échapper aux flics en faisant des grinds. Et le tout dans une version futuriste de Tokyo. Donc voilà, comme plein de jeux de glisse ou de sport extrême, il y a vraiment un gros soin apporté au BO qui nous accompagne pendant l'aventure, parce que bon, il y a un côté très chorégraphique. Et donc, comme dans le premier Jet Set Radio, t'as beaucoup de sons un peu techno, breakbeat, hip-hop, big beat, et tout ce genre de beats de fin des années 90, début 2000. Juste après ça, on a eu un morceau du jeu Siphon Filter sorti sur PlayStation en 99, le morceau Danger 2, composé par Chuck Dude. Alors Siphon Filter, c'était un jeu d'action en vue de la troisième personne qui était extrêmement bourrin aussi, parce que je rappelle le thème de l'émission qui est le bourrin. Moi, j'ai pas trop joué à ce jeu, mais mon rapport, c'est que j'avais uniquement la démo, mais que j'avais fait beaucoup de fois parce que j'étais très impressionné par les animations. Il y avait un délire motion capture très fluide qui était ouf, et aussi il y avait une localisation des dégâts sur les corps. Donc quand tu tirais dans la tête ou sur les pieds, il réagissait de façon différente. Je trouvais ça trop. Je trouvais que c'était photoréaliste, quoi. Et tu avais aussi le fameux taser, donc les gens qui ont joué à ce jeu s'en souviennent bien, parce que si tu insistais sur le taser pendant longtemps, l'ennemi se transformait en torche. Voilà. Tu pouvais le brûler vif si tu insistais un peu avec ton taser. Et ça, c'était tellement fun.
On va se faire censurer entre Carmageddon, oui. Siphon Filter.
Ah oui, on aurait peut-être dû mettre des petits trigger warnings au début de l'émission. Ouais. Voilà, on va parler un peu de violence encore, mais voilà, donc t'as la BO électro avec un aspect un peu épique, film d'action, avec le fameux orchestral hit dont on avait parlé pendant une autre émission. Et donc bon, bah là c'était Danger 2, donc c'est le danger, quoi. Et juste après, pour continuer dans la finesse, on avait BFG Diffusion composé par Mick Gordon, tiré de la BO de Doom, sorti sur PC en 2016. Donc bah Doom, quoi. Enfin, c'est un incontournable.
Présenter.
Non, on va pas présenter, mais je vais en parler un peu, notamment de la BO, parce qu'elle a marqué beaucoup de gens. Donc bon, bah déjà Doom de base, historiquement, c'est très affilié au hard rock et au metal. John Romero, métalleux, John Carmack aussi, sûrement. Et Doom et Doom Eternal, bah je les adore vraiment. Enfin, c'est les jeux bourrins par excellence. Donc visuellement, enfin c'est ça explose, c'est gore, ça gicle, t'en prends plein la tronche. Et j'aime bien parce qu'ils ont poussé les curseurs tellement haut que ça devient presque comique. Le héros, il appuie pas sur un interrupteur, il éclate, quoi. Genre.
C'est dans celui-là où Eternal, où il prend la tête de quelqu'un. Enfin, je sais plus pourquoi, il faut un scan
sur
rétinien.
Le scanner, ouais. Il va exploser la tête du mec. Je sais plus si c'est dans le 2016 ou le Eternal, parce que je les ai fait un peu.
Oui, c'est très drôle, en effet, ouais.
Et bah, à ce jeu, moi, je le trouve vraiment magnifique. Bon, bah, après, j'apprends rien à personne parce que c'est de façon unanime des jeux qui sont extrêmement appréciés. Mais parce que derrière l'aspect très très bourrin, je trouve qu'il y a un gameplay d'une grande finesse et c'est assez stratégique.
Oui, c'est acrobatique, stratégique.
Et en fait, dépendant évidemment du niveau de difficulté, pendant les combats, t'es vraiment en flux tendu à gérer ta vie, tes munitions, ton armure, quelles armes utiliser dans quelle situation. Et donc tout repose vraiment sur ta réactivité et ta rapidité en fait à analyser l'environnement, les ennemis. Et ta prise de décision vraiment à la milliseconde pour changer totalement l'évolution du fight, en fait, parce que une micro-action peut tout faire basculer, quoi. Et donc c'est très kiffant quand tu maîtrises tout ça. Il y a un aspect très chorégraphique, donc on danse littéralement avec les ennemis, et donc d'où la BO qui est complètement folle de Mick Gordon, qui a composé des morceaux de métal industriel avec des sons très électroniques. Et la BO est très inspirée par un style de métal qui s'appelle le djent.
Ah, d'accord.
Je me souviens plus, mais
je m'étais renseigné dessus à un moment parce que je ne connaissais pas.
Ouais.
Et c'était un peu la nouvelle tendance du métal.
C'est ça, ouais,
quelques années.
Les années 2000.
Ouais. Je ne me souviens plus par contre de quoi il s'agit exactement.
Bah, je vais faire une petite présentation. C'est un sous-genre du métal progressif qui était très populaire depuis les années 2000 et qu'on doit en très grande partie à un groupe que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle Meshuggah.
Ah oui, ok.
Donc il y a un son très très lourd avec des guitares 8, 9 cordes, ouais, je ne sais pas, sous-accordées, avec un aspect harmonique très très minimaliste. On n'est pas du tout sur quelque chose de mélodique, mais plutôt sur quelque chose de très très rythmique, avec des grosses décharges de double pédale à la batterie qui suivent des allers-retours à la guitare. Comme faisait un peu Fear Factory, j'en reparle maintenant, mais avec beaucoup plus de contretemps et de polyrythmie.
C'est ça, je me rappelle de Meshuggah, c'était ça la réputation.
C'est ça, avec un aspect... Ouais.
C'était mathématique.
Mathématique, très saccadé. Mais tout en gardant, il y a quand même une sorte de groove avec le charlet, la caisse claire, qui est là pour que tu puisses headbanger. Hein. Et Meshuggah, oui, ils étaient allés très loin dans l'aspect rythmique complexe et l'anti-mélodie. Ils ont eu une période très très conceptuelle. Où ils ont perdu pas mal de fans de métal d'ailleurs. Il y avait des albums qui ont été composés uniquement sur ordi, où ils enregistraient des boucles, ils les découpaient et ils les décalaient pour les faire se chevaucher de façon un peu bizarre. Et par la suite, ils devaient essayer de jouer ça en live, quoi, avec leurs instruments. Okay. Et donc, du coup, ils sont allés assez loin dans ce concept-là. Et donc, pour en revenir à Doom, donc voilà, dès que tu arrives dans une arène et que tu as les premières notes de guitare un peu qui retentissent, tu te dis ok, bon, ben. Bon, c'est parti, quoi. C'est avec la musique très percussive, en plus, avec des kicks un peu techno, tout ça. Ça accompagne le son de tes armes, qui sont presque des instruments de musique aussi, en fait. Tout ça, je trouve, contribue à une sorte de transe qui se crée au bout d'un moment quand tu joues à Doom. Et c'est super stylé. Et je trouve que c'est vraiment un vrai coup de génie d'avoir mis ce genre de musique dans les jeux Doom récents.
Tout à fait.
Voilà. Juste après ça, on a eu un morceau d'un jeu auquel j'ai jamais joué, c'est Extreme G, sorti sur N64 en 97, donc track 5, composé par Simon Robertson. Donc c'est un jeu de course de moto futuriste qui a une grosse communauté de fans. Il y a vraiment des gens qui l'aiment autant que F-Zero, qui est pourtant le jeu de course futuriste par excellence. Bon, moi j'y ai jamais joué, mais apparemment c'est bien, et la BO techno des boîtes comme ce à quoi on peut s'attendre dans ce genre de jeu,
comme les musiques de F-Zero d'ailleurs, même oui, époque, oui. Sur N64 il y a des bons
bah oui, puis il y a le F-Zero sur GameCube aussi qui est vraiment le jeu vraiment préféré de énormément de fans, auquel j'ai jamais joué non plus, mais moi j'étais plus Wipeout, même si c'est une espèce de relecture de F-Zero. Et donc, bah voilà, le dernier morceau, c'était Beatmania. Je vous en ai déjà parlé.
Bon, bah merci pour tout ça. Tu parlais de Doom tout à l'heure, ça me rappelait juste un truc dans mes petites errances de YouTube. Là, pourtant, je suis tombé sur des remixes ou des reprises, je dirais peut-être plutôt des réinterprétations de morceaux de Aphex Twin avec les sons de Doom.
Ah oui, d'accord. Doom, avec les sons de fond, des vieux Doom, ouais.
Des vieux Doom, ça marche très bien.
Ben oui, il y a vraiment toute une niche sur YouTube de
Soundfont,
Nirvana repris par le Soundfont de Mario 64.
Très bien celui-là.
Bonne ref.
Bon, ben, en tout cas, merci pour cette sélection très cool. Je vous propose d'écouter la mienne désormais.
Tu nous balances ta sélection.
1, 2, 3, 4, 5 titres également et on en parle après.
Ok, let's go. Thank you.
Breaking up.
Vous êtes sur Canal B 94 FM, émission musique.fm, qui parle pas mal de musique, de jeux vidéo, et même que de ça quasiment en fait, enfin presque. Et nous avons écouté 5 titres d'affilée, donc toujours sur ce thème de morceaux un peu qui déménagent, hein, qui envoient un petit peu.
C'était trop bien.
Bah merci beaucoup.
Tu nous as régalé.
Merci, merci. En petite opposition à cette spéciale morceau chill qu'on avait fait il y a quelques éditions avant. Et on a commencé donc cette petite écoute avec le morceau Approval Desire, Approval Desire en French, de l'artiste Ayoban, un jeune producteur de Osaka à Tokyo. Donc c'est tiré du jeu Needy Streamer Overdose. Alors le nom japonais c'est Needy Girl Overdose et je connais pas du tout ce jeu, j'étais tombé dessus parce que j'avais chopé la BO en vinyle qui est trop cool parce que ça reprend l'esthétique du premier album de Yellow Magic Orchestra dont je suis fan, si vous suivez un peu cette émission vous le savez.
Ah du coup t'avais acheté pour la pochette?
Ouais, enfin j'avais vu le, j'étais à Paris au Balade Sonore, hein, donc le disquaire, et ouais. Ils ont un super bac musique de jeu.
Ok, ouais.
Et je suis quelqu'un qui dépense un peu d'argent là-dedans dans les vinyles de musique de jeu. Ça coûte bien cher.
Sans déconner.
Et j'ai vu ce truc que je connaissais pas, donc une esthétique hyper anime Japan avec la nomenclature de l'album de Yellow Magic Orchestra, l'écriture en jaune au-dessus, enfin etc. Donc ça m'a un peu titillé. J'ai pas acheté le disque immédiatement, mais bon, j'ai regardé vite fait sur internet ce que c'était. Donc c'est un jeu qui est assez actuel. C'est un visual novel qui est japonais, qui a été adapté, qui est sorti après dans le monde entier. Et ça a l'air hyper cool, ça parle du milieu du streaming, de cette nécessité à faire du stream, de faire des vues, se faire accepter comme ça, c'est très parasocial, etc. Ouais. C'est un peu une critique, enfin une critique ou en tout cas une plongée dans ce monde-là, avec un aspect très animé, très rétro. En plus, ça ressemble un peu à Windows 98 dans l'interface, mais très rose, avec des couleurs très contrastées. Et ça a l'air de partir bien loin et la musique est très cool. Bah, j'adore ce morceau parce qu'il y a ce mélange de rétro gaming, on croirait un peu du DuckTales au début.
Oui, au début, oui.
Très pixelisé, très NES et ça part direct après casse, en ouais. grosse techno. Donc le jeu a l'air bien barré et la BO est très, très chouette. Voilà. Ensuite, on a eu le morceau Neo City de Akitaka Toyama, tiré de Tekken 8. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Le morceau, il envoie grave. Tekken, bah, je connais pas trop. Moi, j'ai joué au 1 et au 2, peut-être. Non, jusqu'au 3. J'ai dû jouer jusqu'au 3 chez un copain, quand j'étais en banlieue parisienne, qui était fan de jeux de combat. Et quand on allait chez lui, on jouait souvent à des jeux de combat. Je me rappelle qu'on avait joué à des jeux genre Rival School, des trucs comme ça aussi.
Ah oui,
enfin, je sais pas, c'est
trucs
qui me reviennent, là, ouais.
Bloody Roar aussi. Là.
Bloody Roar, ouais.
Les jeux en 3D.
Tobal, ce genre de. Les jeux un peu oubliés aujourd'hui. Quoi, mais,
c'est vrai.
Et donc, pour revenir à Tekken, bon, bah, pareil, c'est une licence qu'on présente plus trop. Hein. C'est hyper connu aujourd'hui. Il y a eu énormément d'épisodes. Les BO sont très cool. Et en général, ça renvoie pas mal aussi, quoi. Et donc, voilà, ce morceau, je trouve qu'il est particulièrement mortel, quoi. Parce qu'il est super bon. 8.
Ouais.
Tekken 8 en 2024.
Mais c'est un morceau qui est affilié à un personnage ou c'est un morceau d'une map peut-être ?
Ça s'appelle Neo City, donc je pense
Neo
que c'est
City,
une map.
C'est une map, ok. Et parce que ouais, dans Tekken 3, il y avait genre le thème de Eddie Gordo, le thème de Paul, le thème
ah,
de
ouais.
machin.
Ah ouais, ok.
Mais bon.
Non, ça je savais pas. Et j'aime bien parce que c'est hyper bourrin, mais en même temps c'est un peu mineur, un peu épique, mélodique, mélancolique. J'aime bien tout ce mélange. Je trouve que ça marche sûrement en tout cas, c'est trop bien. Après il y a eu le morceau Short Order qui était chanté tiré de Splatoon 3, donc une licence Nintendo. Je connais pas trop, en fait c'est que des jeux auxquels j'ai jamais joué, hein. C'est assez marrant. Et Splatoon 3, je sais pas si tu vois toi, mais c'est un shooter d'arène, ouais. Multijoueur, etc. Ouais. Avec beaucoup de couleurs, je crois que c'est, il se tire avec de la peinture, j'ai l'impression qu'il y a un
délire voilà.
comme ça.
C'est fait pour toute la famille.
Ouais, Nintendo Spirit.
Voilà.
Et en fait, il y a un groupe fictif dans le jeu, en fait, qui s'appelle Off the Hook. Je crois que c'est un duo. Enfin, dans le jeu, je crois que c'est un DJ, une meuf ou un truc comme ça. Et donc, c'est censé être ce groupe qui a fait la BO, en fait. Enfin, si j'ai bien compris, hein, je suis un peu renseigné vite fait.
Le lore de Splatoon.
Ouais, c'est ça. T'as des personnages fictifs, en fait. Et donc, t'as ce groupe qui s'appelle Off the Hook. Et apparemment, il y a pas mal de morceaux. Et je crois qu'il y a même des concerts hologramme peut-être. Non, en costume, costumé, j'ai vu, ouais.
Ah, ça doit être marrant. Ok.
Ouais, c'est pas mal, c'est des gens sur scène avec des gros costumes des personnages. Mais... et qui arrivent quand même à servir de platine et tout, c'est assez drôle.
Ok.
Et après, on a eu Unknown 3. Donc, c'est un niveau, j'imagine. Enfin, je sais pas. Donc, tiré du jeu Vatlva. C'est très dur à prononcer. V-A-T-L-V-A. Vatlva.
Vatlva, ok.
Un shooter en arène, pareil, sur Saturn en 96. Un morceau composé par, encore une fois, Yuzo Koshiro, qu'on a vu beaucoup de fois ici, et son comparse Motohiro Kawashima, à qui j'aimerais bien rendre honneur, parce qu'en fait, c'est un peu une personne de l'ombre qui a pas mal bossé avec Yuzo Koshiro, notamment sur Street of Rage 2 et Street of Rage 3. Donc, c'est des BO mythiques qu'on attribue souvent à Koshiro. Mais en fait, il a fait ça avec un autre gars, donc Motohiro Kawashima, qui est franchement un super artiste. Je passerai un morceau de lui à la fin de l'émission, en fait, parce qu'il a fait des albums solo dans les années 2020 et quelques, là, il n'y a pas si longtemps. C'est hyper bien, musique électronique très actuelle, un peu IDM. Tu sens qu'il utilise beaucoup de logiciels, beaucoup de technologies actuelles, et même pour ses clips, ses visuels et tout. Et bon, voilà, je pense à un artiste à écouter si vous aimez bien le lore des compositeurs de Sega et tout ça, quoi.
Bah ouais,
et c'était un morceau très cool, je trouve, très jungle,
ouais.
Un peu la Jet Set Radio en quelque sorte.
Et ces trucs solo par la suite, là, c'est un peu dans la même vibe. Enfin, tu reconnais un peu une patte ou
Ça va pas trop parce que là, on est vraiment dans les 90s, donc il y a ce côté très jungle, etc. Et ouais, quand tu verras le morceau que je passe à la fin, c'est encore une fois beaucoup plus IDM, beaucoup plus.
Ouais, ok.
Voilà, c'est un peu moins évident, entre guillemets, moins mélodique peut-être, mais. Et dans les albums, ouais, c'est cool, tu retrouves quand même, là, tu sens qu'il a fait du jeu vidéo, quoi, parce que tu ressens des. T'as quand même des morceaux avec des petits thèmes et tout, un peu nostalgique et tout, et c'est hyper bien. Et on a conclu avec le morceau Smart System de Myst, c'est le nom de l'artiste, tiré du jeu Wipeout Pulse, sorti sur PSP. Donc Wipeout, grosse franchise hein, de jeux de course de vaisseaux, avec des musiques souvent excellentes et géniales.
C'est vrai que oui, pour un thème bourrin, passer du Wipeout.
Tout à fait.
C'était assez legit.
Et puisqu'on est dans ce thème un peu de musique club, etc., j'ai chopé un bouquin qui s'appelle Manga Corpse, qui recense énormément de flyers en fait, de la scène techno-hardcore gabber du Japon des années 90. Mmh. Donc c'est que des flyers trop stylés, qui mélangent un peu l'univers otaku, donc un peu manga, jeux vidéo et culture techno underground.
Ah oui, c'est des milieux qui se croisent.
Exactement, bah oui, en fait, tu crois pas si bien dire, parce qu'en fait, justement, dans l'intro du bouquin, donc moi j'avais acheté le bouquin au début pour les visuels qui sont trop trop stylés.
Oui.
Et parce que c'est un peu tout ce que j'aime mélanger. Dans l'intro du bouquin, t'apprends. Attends, j'ai fait une petite capture d'écran. Qu'en fait, dans les premières soirées, dans les 90s, un peu gabber, techno-hardcore, qui est dans des clubs, ils mélangeaient ça avec la culture gaming, en fait, et t'avais des consoles qui étaient branchées avec des télés.
Mais non.
Dans les clubs, donc t'avais des Super NES, des PlayStation, des Sega Saturn, des trucs comme ça. Donc les gens pouvaient jouer à ça en même temps que de se recevoir du gros son de hardcore dans la tête.
Mais ça, c'est trop bien. Il y a un peu ce truc... si tu vas en soirée avec des DJ ou quoi, ou si t'as pas trop envie de danser,
ouais,
d'avoir une petite Saturn, en vrai.
Grave. Un jeu de baston, un jeu de course.
Tu peux motiver des gens à sortir uniquement avec ça, quoi.
Non, mais c'est trop bien.
Ouais, non,
et
c'est trop stylé.
Encore plus loin, parce qu'à l'époque, Sega était quand même à son top, tu vois. Il s'était pas encore malheureusement ringardisé par Nintendo. Il y avait un. En fait, il y a eu un artiste qui s'appelle. Alors, il s'appelle comment ? Alors, il y a un morceau qui s'appelle Out of Key. Non, c'est l'artiste qui s'appelle Out of Key. Il a sorti un morceau qui s'appelle Sega Junkie. Donc, je me suis demandé si j'avais pas le passé aujourd'hui, mais c'est trop bourrin. Vraiment, c'est du gros, gros gabber. Je sais pas.
Je crois que pour le public de Canal B,
Canal B,
c'est
ils vont
nous
virer.
Oula.
Mais vous pouvez écouter. Après, c'est vraiment extrêmement bourrin. Mais ça sample un peu des morceaux des trucs de Sega, quoi. Et il faut savoir que Sega, suite à... Ils ont vu le truc passer. Ils ont carrément... Il y a carrément eu des... Sega Hardcore Generation, c'était Rave, sponsorisé par Sega.
Ah ouais, ok.
Voilà. Oui. Donc, tout se rejoint un peu.
C'est marrant que ça se rejoigne, parce que ça peut être un petit peu antinomique, quoi. Genre, les gens qui sortent et qui vont voir dans les clubs.
Ouais.
Et des gens qui restent chez eux et qui jouent aux jeux vidéo, de tout à coup, mais c'est trop bien.
Ouais, mais après, Sega était quand même vachement en avance là-dessus, sur le côté ce qui s'adressait plutôt justement aux cultures un peu plus underground, même avec les BO de leurs jeux. Ils ont toujours essayé de...
Oui, bah,
pour citer
plus,
Koshiro, même pour les premiers Street of Rage, il a tout de suite voulu un peu adapter des musiques de club.
Oui, puis après Sega, il y avait ce côté arcade, et donc les jeux de danse et machin. Donc du coup, il y avait quand même un aspect social, quoi.
Tout à fait. Et d'ailleurs, Beatmania, que tu citais tout à l'heure, il y a eu pas mal de morceaux dans les jeux Beatmania qui venaient de ces soirées-là, en fait. Qui étaient des morceaux de rave, techno, tout ça.
Oh, wow.
Okay. Tout est lié.
Et c'est quoi le nom du livre, déjà?
Manga Corps.
Manga Corps, ok.
Bah, chopé sur internet, c'est hyper cool, mais après je crois qu'il est plus édité. Enfin, il a peut-être été réédité depuis.
Hmm.
Mais ouais, c'est une très bonne. Si vous aimez bien les visuels et trucs comme ça, c'est à voir absolument.
Ok, trop stylé. Merci beaucoup, Alexis.
You're welcome. On est là pour ça.
Bah oui.
Et
est-ce qu'on passerait. Est-ce qu'on a des trucs à annoncer avec le label?
Pas encore.
Pas encore.
Ça arrive. Ouais, par contre, je voulais juste parler d'un truc. Moi, c'est il y a un label suisse moi que j'adore qui s'appelle, attention, We Release What the Fuck We Want. Alors, c'est souvent écrit WRWTFWW.
Sur de faire encore plus simple.
Voilà. Et ils rééditent énormément de choses très très cool. Ils avaient d'ailleurs sorti en vinyle les trucs de Pizza Hotline. Je sais pas si tu vois.
Ah oui, oui, ok. Je vois.
Artiste qui fait beaucoup de musique, genre PlayStation, on va dire.
Ouais.
Et donc là, ils viennent d'éditer deux disques. Alors, il y en a un qui est plus pour les amateuristes de jazz. Donc, c'est une interprétation de la BO de Ocarina of Time. Jouer un peu avec des instruments un peu plus jazz. Et t'as des personnes un peu jazz. Okay. Bon, par contre, on retrouve tous les thèmes grandioses du jeu et ça peut être assez cool. Mm. Et par contre, ils viennent aussi d'annoncer la sortie de la BO de Link to the Past, donc le Zelda de Super Nintendo. En fait, c'est interprété par Jamin Sam Miller. Okay. J'avais déjà un disque, en fait, lui qui avait réinterprété la musique de Donkey Kong 3. En fait, il utilise toutes les pistes MIDI de l'époque. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est pas des reprises. C'est pas un remaster, c'est pas une reprise. C'est, il prend les pistes MIDI d'époque exactement telles quelles.
Les originales, quoi.
Les originales. Mmh. Il utilise du matériel vintage, hyper proche de l'original, très puriste en fait. Et donc ça fait que c'est des BO qui repassent un peu dans la moulinette un peu plus actuelle, mais toujours fait façon de la manière ancienne en fait.
Oui, en ayant un respect du matériel original, en restant vraiment dans...
En fait, t'enlèves juste la compression des consoles de l'époque, qui donnait parfois un peu des fréquences qu'on aime évidemment quand on jouait à l'époque et qu'on aimerait écouter avec nostalgie aujourd'hui.
Oui.
Mais c'est cool parce que c'est vraiment une relecture de ces BO, mais t'as l'impression d'écouter...
Les découvrir comme ça, quoi.
Exactement. Ouais. C'est la pureté du son de l'époque, mais avec une qualité actuelle. Et franchement, c'est trop bien et c'est cool de les avoir en vinyle, encore une fois, si vous êtes, comme moi, un peu matérialiste. Et donc, la BO de Link to the Past vient d'être annoncée. C'est très, très dur de résister pour l'instant.
Ok.
À la choper parce que les BO de jeux vidéo, c'est toujours un peu cher quand même en vinyle.
Bah, je pense que je vais d'abord écouter sur internet et puis.
Mais je ferai un petit mix en vinyle, un de ces quatre.
Ah ouais, avec plaisir.
Et
donc tu voulais nous repasser un morceau là, on va se quitter bientôt.
Et ben donc,
lancer le morceau comme ça.
Carrément. Donc Urban Delusion de Motohiro Kawashima, donc tiré de son album Prepared Wave, sorti chez Datadisk. Datadisk qui réédite aussi des BO de jeux vidéo.
Mm-hmm.
Et donc sorti en 2025. Et voilà, on va se quitter là-dessus.
Et bah ça marche, merci beaucoup.
Et bah on se dit à la prochaine.
On se voit dans 2 semaines.
Et c'est parti.
Salut.
Bye bye.